Divergence numérique, nouvelle intitulée, nouvelle émission pour cette rentrée 2003-2004 sur Divergence. Gilles Gougeur, votre compagnie pour parler des logiciels libres avec bien évidemment Jean-Claude Stigler et Albert Bruck de linuxfrench.net. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Anthony de l'ECM Diego Kawenga est avec nous aussi. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Gilles.
Et puis notre invité est avec nous, il s'agit d'Alain Dirolo. On parlera avec lui, bonsoir Alain.
Bonsoir.
On parlera d'éducation et de logiciels libres dans cette émission qui, rappelons-le, a pour vocation de présenter de façon la plus large possible l'actualité, la vie, on va dire, du libre, par libre avec un L majuscule, on l'entend, pas forcément les logiciels, mais toute l'activité qui tourne autour de ces produits, de ces productions, avec, peut-être qu'on pourrait commencer par ça tout de suite, on va pas s'étendre là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps, c'est pas le sujet ce soir, mais avec une décision qui a été rendue hier, par rapport aux brevets logiciels contre lesquels on avait essayé d'amener notre eau au moulin au mois de juin avec Jean-Claude. Tout l'été, la lutte a continué, alors je crois qu'il y a des... On peut le dire, il y a quand même une bonne nouvelle.
Ah, il y a une excellente nouvelle, puisque le vote hier au Parlement européen de cette directive a été complètement inversé par rapport à ce que la Commission européenne souhaitait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, de fait, les programmes informatiques sont protégés contre tous les brevets et tous les risques que l'on pouvait redouter. C'est-à-dire que la possibilité de lier un brevet à un programme informatique est extrêmement réduite et ponctuelle.
Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas trop dans la partie, on fait un bref rappel. Il s'agissait d'une directive qui avait été soumise au printemps par une Britannique, je crois, qui visait en fait à brevetabiliser les logiciels, c'est-à-dire à rendre les logiciels brevetables, et non seulement les logiciels, mais on va dire les composantes des applications, c'est-à-dire les unités logiques ou les petites fonctions comme ça qui constituent à partir d'un grand nombre un logiciel. Alors ça revenait un petit peu à breveter l'alphabet pour les écrivains, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils versent une dîme à chaque lettre ou à chaque signe ou à chaque mot. C'était quand même un peu scandaleux. Alors il se trouve que moi on m'a dit ça y est, le texte est passé. Et puis dans la seconde d'après, on m'a dit mais il y a eu beaucoup d'amendements et il semblerait que la vapeur se soit inversée en fait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ce texte soit passé, quoi.
C'est une excellente nouvelle. Je pense pas qu'aucun militant des logiciels libres il y a encore 3 mois aurait pu espérer qu'il y ait un tel renversement de situation. Je rappelle à nos auditeurs qui sont pas forcément férus sur, enfin habitués de cette question-là, que le logiciel jusqu'à présent était considéré comme une œuvre intellectuelle, comme un bouquin, qui était protégé par le droit d'auteur, et que les lobbies industriels, essentiellement nord-américains, mais pas seulement eux, voulaient que l'on puisse breveter un logiciel au même titre qu'on brevette une machine pour faire des pâtes alimentaires, par exemple. Et ça s'accompagnait, en plus de brevets qui sont déjà délivrés aux États-Unis sur de simples choses, même pas des algorithmes, de simples idées. Par exemple, le fait de dire, si vous cliquez sur votre souris et votre écran d'ordinateur pour faire une commande, nous, on dit qu'on est propriétaire de cette idée-là, donc vous nous payez des royalties. La directive telle qu'elle a été votée par le Parlement hier interdit absolument toute dérive de ce type. Donc ne seront brevetables que les logiciels dans des cas vraiment extrêmement précis et très bien encadrés par la loi. Et je crois que c'est tout ce qu'on voulait obtenir, et c'est même au-delà.
Albert, enfin, un mot.
Oui, il faut dire très rapidement que là, en fait, ce n'est que la première partie du texte qui a été voté. Donc ça doit encore passer au Conseil des ministres de l'Europe et après revenir au Parlement européen. Donc ce n'est pas
avec
entièrement...
possibilité de modification dans le laps de temps.
Voilà, c'est-à-dire que les ministres européens peuvent encore modifier le texte et ça doit repasser en seconde lecture au Parlement. Donc soit ça passera avec la manière dont ça a été écrit au Conseil des ministres et après au Parlement européen, soit il pourrait aussi y avoir des modifications, mais le pire quelque part qui pourrait arriver, ce serait que cette loi soit enlevée. Et c'est ce que nous craignons un peu.
Alors on s'étendra plus longuement, parce que là on n'a vraiment pas le temps, on s'étendra plus longuement très bientôt sur Divergence, on vous tiendra au courant via les sites internet, on s'organisera une petite discussion sans doute dans une oreille hardie avant la prochaine émission, car il faut le dire que Divergence numérique sera tous les derniers jeudis du mois pour des questions pratiques. On va peut-être revenir justement sur les RMLL, les rencontres mondiales des logiciels libres qui sont tenues début juillet, je crois du 9 au 12 à Metz. Alors Jean-Claude et Albert, vous y étiez rendus. Et là, vous avez rencontré des acteurs, on va dire, de l'essor des logiciels libres dans ce merveilleux domaine de l'éducation.
Tout à fait. On était allé aussi en partie pour représenter un projet que soutient Alain Dirolo, qui est en fait qui s'appelle Allégétis. Et donc nous avons participé avec Jean-Claude à des conférences sur le logiciel libre et sur l'éducation. Et comme c'est la rentrée, comme nous sommes encore au mois de septembre, nous nous sommes dit que c'était une bonne occasion de vous parler ce mois-ci du libre et de l'éducation avec Alain Dirolo.
Alors on va tout de suite écouter deux présentations. Je pense qu'on va les écouter dans la foulée. Il s'agit de la présentation d'Offset et puis d'Alternative 87. Alors qui sont-ils? Que font-ils? On écoute ça tout de suite.
Offset est une organisation pour la promotion du logiciel libre dans l'éducation et l'enseignement. Elle a plusieurs actions, donc constitution d'une base de données de logiciels libres spécialisés dans l'éducation et l'enseignement à but pédagogique, et aussi une distribution sur un CD qui est destiné, pareil, à l'éducation et à l'enseignement, sur une base de Knopix. Sur ce CD, sur lequel on démarre directement, et sur lequel on peut directement travailler, il est possible d'utiliser des logiciels au sein d'une école sans avoir à se préoccuper de l'installation d'un système d'exploitation et ainsi le déployer facilement dans une salle de classe et le distribuer à ses élèves. On trouve beaucoup d'applications qui couvrent tous les domaines pédagogiques, chimie, mathématiques, littérature, jeux, ludopédagogiques, etc. Et parmi, il y a deux logiciels un peu phares dans l'association Offset qui sont Docteur Géo et J'ai compris. Docteur Géo est un logiciel de géométrie interactif et J'ai compris est un logiciel ludopédagogique qui se destine aux tout petits de 2 à 7 ans avec des activités pour apprendre à compter, pour apprendre à lire, pour repérer la gauche de la droite, etc. etc. Il y a une quarantaine d'activités. D'ailleurs, ce dernier logiciel a obtenu le trophée du libre à Soissons dans la catégorie logiciel pédagogique. Donc je rajoute pour préciser que le CD Friduc, qui est bien sûr téléchargeable sur le site web d'Offset, est aussi sponsorisé, soutenu par l'UNESCO tout dernièrement et aussi par le CRDP des Landes. Voilà.
Alors Alternative 87, c'est une association loi 1901 qui est située à Limoges, donc en région Limousin, vers le centre de la France si on peut dire. Notre action se porte sur la promotion du logiciel libre et de par nos actions, nous avons pu toucher des collectivités, des administrations. Nous avons eu l'occasion de faire des formations sur des logiciels comme OpenOffice.org, qui est une suite bureautique concurrente de Microsoft Office. Et par cet intermédiaire, nous avons donné la possibilité et l'opportunité à la région de passer sous une suite bureautique différente. Est-ce qu'on peut dire que l'on force une administration ou qu'on convainc une administration à passer au logiciel libre? Je ne crois pas. Disons que, comme toute administration et toute entité, elle a des contraintes économiques. Et un des attraits du logiciel libre, c'est aussi l'économie, de par sa gratuité. Alors, quel est l'état du logiciel libre dans la région? On peut dire qu'il se porte bien, puisque le LUG, donc l'association, le groupe d'utilisateurs Linux, ne cesse de s'accroître. Au départ, nous n'étions qu'un LUG et nous pensons pour l'année prochaine qu'il y aura 3 LUG en Limousin, donc un dans chaque département. Nous sommes à la base d'une distribution qui s'appelle la PrilucSup, qui est destinée à l'enseignement supérieur, donc tout ce qui est post-bac, avec des logiciels adaptés pour le travail sur un CD bootable. Nous sommes à la base d'un certain nombre de projets, dont un EPN, un espace public numérique, donc labellisé nationalement, qui est un cybercentre, si je puis dire. Voilà, en résumant un petit peu ce qu'est Alternative 87 et ce qu'on fait aujourd'hui en Limousin.
Voilà, donc on l'a vu avec Offset ou Alternative 87, il y a des initiatives, il y a des gens qui agissent et qui développent des logiciels. Alors Offset, ils ont parlé de logiciels carrément axés sur les tout petits, hein, de 3 ans jusqu'au primaire et puis pour les scolaires. Alternative 87 parlait de produits plus orientés sur les classes préparatoires ou en tout cas post-bac. Nous à Montpellier, on est quand même une ville vachement universitaire, on pourrait dire ça. Alors je vais me tourner vers Anthony parce que c'est vrai que à Montpellier, l'ECM est un des hauts lieux de l'initiation, on va dire, à l'informatique. Toi, tu es le spécialiste du libre à l'espace culturel multimédia Kawenga. Là, il dit que dans le 87, la situation va bien parce que les LUG, c'est-à-dire les enfin, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sujet. Est-ce que toi, tu ressens un accroissement de la demande pour s'initier au libre sur Montpellier depuis le temps que tu bosses à Kawenga?
Ben en fait c'est marrant parce que depuis la rentrée là et depuis qu'on a arrêté les soirées sur Linux en août dernier en gros, eh ben il y a de plus en plus de gens qui me demandent justement quand est-ce qu'on réorganise des soirées. Aujourd'hui il y avait un groupe d'étudiants de la fac de Paul Valéry et il y en a pas mal qui ont posé des questions justement sur le logiciel libre et je profite de l'occasion pour parler de la soirée qui aura le 25 octobre. Donc ce serait librement vôtre si on s'arrête à ce titre-là. Pour dire qu'il y aura pas mal de conférences ce jour-là. Et ouais, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes viennent justement en demandant plus d'avantages sur le livre.
D'ailleurs, à ce propos, on peut dire pour le 25 octobre, je vais faire très rapidement, que seront présents Thierry Stoer, Denis Baudor de Linux Magazine France, Pierre Jarillon, qui est, comme tout le monde doit le savoir, l'organisateur des RMML, Dimitri Robert, sans doute aussi, Christophe Esperne, Benjamin Gigon, membre de l'association Léa avec toute l'équipe, normalement Anne et Fred seront là aussi. PLF, qui est une organisation divergente, on va dire, de Mandrak, qui fait des programmes pour la Mandrak, mais qui ne sont pas totalement libres, qui ne respectent pas la licence GPL. Et en fait, beaucoup de monde qui vont venir pour parler du libre et de ce qui tourne autour.
Alors autre voyage dans le 74 cette fois-ci en Haute-Savoie avec le CRI 74 que vous avez rencontré au RMLL. Alors je crois que c'est Cécile du CRI 74 Cécile Bonnet qui va nous faire une présentation de qu'est-ce que c'est Quatesque et puis ensuite on aura Sébastien qui est le responsable de l'équipe de développeurs qui travaille. Alors la situation dans le 74 peut faire éventuellement rêver, c'est la question qu'on posera à Alain tout de suite après.
Bonjour. Le CRI, qu'est-ce que c'est? Que signifient ces initiales et pourquoi 74?
Bonjour, donc le CRI signifie Centre de ressources informatiques. Nous sommes de la Haute-Savoie. Donc Centre de ressources informatiques, c'est une notion assez connue dans les milieux universitaires. Nous, la différence, c'est que nous sommes pas un niveau universitaire, mais un niveau départemental. Donc nous avons un statut associatif, mais nous sommes entièrement soutenus par le Conseil Général. Et notre mission, c'est de diffuser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication auprès de toutes les structures publiques et parapubliques du département de la Haute-Savoie. Donc à ce titre, nous sommes fournisseurs d'accès pour ces structures, c'est-à-dire tous les établissements scolaires, toutes les collectivités, les offices du tourisme, les bibliothèques, les MJC, etc., etc. Et nous sommes également fournisseurs de services. Et donc nous avons développé pour cette occasion Pingu. Pingu qui existe depuis 1997 maintenant. Aujourd'hui, nous présentons la version 3. Et Pingu est destiné à faciliter justement l'usage des NTIC dans ces structures, puisqu'en général, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas beaucoup de compétences en interne, humaines, pour gérer tout ça. Donc Pingu est un serveur de communication qui fait en gros tout le boulot à leur place. Voilà.
Le département 74, les Hauts-de-Savoie, est l'un des départements français le plus à la pointe en ce qui concerne le logiciel libre et les nouvelles technologies. Pourquoi ?
Je crois que c'est une question de personnes au bon moment, au bon endroit, comme beaucoup d'initiatives de ce genre-là. C'est vrai que le CRI existe maintenant depuis 1993 et on a eu la chance d'avoir une grande confiance de la part du Conseil Général qui nous laisse faire un peu ce qu'on veut. Et puis aussi parce que le libre, ça fait depuis 1997 avec Pingu, ça fait depuis 1999 avec les clusters qui ont été installés au CRI, et puis ça marche, donc forcément le département nous laisse nous engager encore plus dans cette voie, parce qu'il se rend compte qu'effectivement c'est une bonne chose.
Est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait dans le 74 peut être porté dans d'autres départements, voire dans d'autres régions françaises, parce que aujourd'hui encore, des choses comme celles qui sont faites en Haute-Savoie ne sont pas répandues dans d'autres départements ou dans d'autres régions?
Il est vrai que le CRI 74 est unique en son genre. Nous, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir faire bénéficier de notre expérience, qui commence quand même à être assez longue. Donc, oui, je pense que c'est un modèle qui est tout à fait transposable dans d'autres régions, dans d'autres départements. Il faut bien sûr que chaque région adapte ce modèle selon ses besoins, selon ses moyens également. Donc nous, en tout cas, nous sommes vraiment prêts à accueillir quiconque pour leur faire partager notre expérience, leur montrer notre fonctionnement et espérer, pourquoi pas, que ce soit copié ailleurs. Mais il est vrai que depuis 1993, nous avons de gros partenariats avec l'éducation nationale, notamment avec l'inspection académique, avec qui nous travaillons énormément. Aujourd'hui, on a 97% des établissements scolaires qui sont connectés chez nous, du département. Donc c'est quand même un travail de longue haleine, ça s'est pas fait en un jour, mais effectivement c'est quand même un bon moyen de centraliser justement toutes les ressources, tous les moyens en un endroit pour que tout le monde en profite au maximum. Et en tout cas ça marche en Haute-Savoie, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs.
D'accord, merci.
Merci à vous.
Je sais pas si j'ai bien répondu.
Sébastien Delcroix, bonjour. Tu fais partie du CRI 74 et à ce titre, tu es un des principaux développeurs de Pengu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà qu'est-ce que tu fais au CRI 74 et nous parler un peu plus précisément de Pengu?
Bonjour. Donc, je m'occupe en fait des développements au CRI. Je suis responsable de développement. Et j'encadre l'équipe des développeurs. J'ai aussi une partie, je m'occupe aussi des développements, enfin d'une partie du code de Pengu.
En quoi Pengu apporte à tous ces gens une solution efficace?
Oui, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait à gérer l'ensemble des comptes de l'ensemble des services publics du département, que ça soit éducation, collectivité ou organisme public ou parapublic. Donc on a été obligé en gros de décentraliser la gestion des utilisateurs dans chaque établissement public, scolaire, etc. Parce que on n'était pas assez en gros nombreux pour gérer entre 150 et 200 000 comptes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé cette solution pour décentraliser et en plus faire en sorte que les gens gèrent leurs comptes de manière autonome, puisque dans un établissement scolaire, il y a un turnover qui se passe à chaque rentrée et à chaque fin d'année scolaire où des élèves partent et reviennent. Donc pour nous, au niveau de la gestion, c'est bien plus simple. En plus de ça, ça permet à chacun des acteurs du public de pouvoir publier ses informations sur son intranet, de gérer sa sécurité et de gérer son réseau en général. Donc on a fait en sorte que les gens puissent s'approprier une technologie et en soient indépendants. Le point fort de Pengu, c'est qu'il nécessite absolument aucune compétence technique spéciale pour pouvoir gérer la machine, puisque le CRI prend en charge la complète administration, installation de la machine. On fait de la maintenance à distance. Et je dirais même que
Ça, vous le faites par contre seulement dans la Haute-Savoie, vous ne faites pas ça au niveau national?
Non, ça on le fait uniquement pour nous, y compris les installations. Faut que ça soit clair, on peut pas se permettre de supporter la France entière. Et je dirais que le département a peut-être pas forcément envie de payer pour toute la France. Donc nous, on s'occupe essentiellement de nos établissements scolaires et de nos collectivités. Et on leur installe la machine. Ils l'amènent dans leur établissement et elle est prête à l'emploi. Et eux n'ont qu'à s'occuper de l'éditorial et puis de créer les comptes dessus.
Est-ce que cette solution qui est utilisable par l'administration sous ses différentes formes est aussi utilisable, par exemple, pour une PME ou une PMI?
Oui, ça a été en fait développé dans cet état d'esprit. Autant la version 1 avait été développée pour l'éducation, parce que ça avait été en gros nos premiers clients, entre guillemets. Par contre, on a voulu développer la version 2, évidemment la version 3 qui va sortir. Dans l'état d'esprit, on développe quelque chose qui correspond en fait à un besoin qui se retrouve aussi bien dans une collectivité que dans une entreprise. Et à nous d'installer des outils spécifiques pour l'éducation qui ne viennent pas, bouleverser la distribution elle-même.
L'évolution de Pingu, ça va être quoi dans les prochains mois ?
Eh bien, la version 3 qui va sortir à la rentrée. Après, évidemment, améliorer la distribution et surtout faire un déploiement, puisqu'on a 120 machines en production aujourd'hui qu'il va falloir passer de Pingu V2 à Pingu V3. Et puis, certainement à terme, à fin 2004, au moins 200 Pingu, voire plus, d'installés sur le département, donc à gérer toutes ces machines. Et à prévoir la version 4, bien sûr, pour les années à venir.
À part le projet Pingu, est-ce que au CRI, vous avez d'autres projets en cours ou en gestation ?
Oui, on a développé il y a quelque temps, je crois que c'était en 2000 ou 2001, un projet qui s'appelle PHP DocServe, que l'on va modifier et retransformer, certainement en changeant le nom. Bon, après, c'est juste un problème de temps qui nous manque, mais c'est un outil de gestion de la documentation pour, en gros, une entreprise ou une collectivité ou un établissement scolaire. Ça peut gérer les livres, les URL, les CD-ROM, etc. Et ça permet de classifier l'ensemble de ces connaissances dans l'entreprise.
Merci.
Merci, au revoir.
Voilà, c'était Sébastien Delcroix du CRI 74. Alors avant d'en parler avec notre invité, Albert, une précision, parce que ça c'était en juillet, je crois que les versions, les dernières versions dont il parle, sont déjà sorties sur Pingu.
Sont disponibles, effectivement, la version 3 définitive est sortie, et même eu droit à une mise à jour la semaine dernière. Donc on est maintenant à la 3.01, et c'est vraiment un produit d'excellente qualité que je conseille à tous de tester.
Alors à présent, on va se tourner vers Alain Di Rollo, enseignant et créateur d'Allégétis. Alors Allégétis, c'est un acronyme ultra fleuve, alternative logiciel libre pour les écoles gardoises, évitant toute informatisation coûteuse exagérée. Ou exagérément coûteuse, je pense qu'on pourrait dire aussi.
Oui, tout à fait.
Alors avant de parler d'Allégétis, j'aimerais bien une réaction par rapport au CRI 74, qui a l'air d'avoir rencontré des oreilles attentives et raisonnables au sein des collectivités locales, et tout le monde ne peut pas s'en targuer dans tous les départements français. Est-ce que ça fait un petit peu rêver par rapport à la situation dans l'Hérault, ou est-ce que dans l'Hérault il y a d'autres structures qui fonctionnent et qui font que ça marche?
Alors, petite rectification, je suis enseignante dans le Gard, dépend quand même de l'Académie de Montpellier.
Voilà.
Donc, voilà. Oui, tout à fait. Ils sont, je pense, au top de ce qu'on peut faire au niveau TICE dans l'éducation nationale.
Et TICE qui sont
Technologies d'information et des communications pour l'enseignement. Mmh. Voilà. Pour parler un petit peu plus du CRI, j'ai eu le plaisir d'être invité à la journée du 10 juillet 2003 à Archamps, organisée par le CRI 74, qui proposait une présentation de diverses associations et projets aboutis concernant l'éducation. C'était une journée qui a demandé énormément de travail, mais qui a été superbement organisée. Donc c'était la première édition de Linux Edu Solutions Libres ETIS organisée par le CRI. La première version était vraiment très très bien, mais un petit peu courte sur une journée. Et donc l'an prochain, je pense qu'au mois de juin, ça va être aussi organisé, mais sur deux jours, voire peut-être sur trois. Enfin deux certainement.
Alors peut-être, quelle est la situation aujourd'hui sur l'Académie de Montpellier, qui s'étend au-delà des frontières de l'Hérault, en matière d'informatique libre et d'éducation?
Bon, mais je crois qu'on n'est pas du tout au même niveau que dans la série 74. On a, je pense, énormément de mal à perforer et à sensibiliser l'utilisation du logiciel libre dans l'éducation dans notre département. Je vais parler essentiellement du département du Gard, dont je dépends. Il y a, je veux dire, un petit peu de mal à favoriser l'utilisation du logiciel libre. On peut éventuellement en trouver les causes, elles sont relativement simples, mais elles ne sont pas, je veux dire, irrémédiables. Je pense qu'il y a déjà quelques petites avancées, notamment avec le CDDP du département 30, donc qui se trouve à Nîmes, qui a enfin, au bout, on va dire, de 10 mois de communication via email, fini par faire une entrée logiciel libre sur le site donc du CDDP. Il faut savoir que le CDDP, Centre de Documentation Départementale Pédagogique, est quand même un site qui est relativement vu et visité par les enseignants, donc pas seulement du Gard, mais tous les départements, et qui propose aussi des formations. Alors, je suis bien content parce que j'ai eu un entretien via email avec monsieur, je ne me rappelle plus son nom, ça reviendra tout à l'heure. Et on est arrivé donc à faire une entrée logiciel libre au CDDP. Il va y avoir donc, il y a une présentation de quelques solutions libres donc maintenant au CDDP. Chose qui n'était pas encore présente il y a 10 mois.
Mmh. Alors je fais un petit retour sur ce que disait Cécile du CRI 74. Elle mentionnait le fait que l'association a pris le rôle de fournisseur d'accès pour tous les collèges, les mairies, etc. Par exemple, quand on sait que le collège, le tout neuf collège de Montarno, par exemple au nord de Montpellier, se contente d'une ligne Numéris pour Internet. Alors quand on voit ce que ça coûte et ce que ça rapporte aux fournisseurs, on peut trouver ça un petit peu dommage, on va dire. Comment ça se fait qu'au niveau budgétaire, peut-être, il n'y ait pas une réactivité suffisamment rapide pour se dire, arrêtons les frais et tournons-nous vers le logiciel libre. Est-ce que ça vient du système de fonctionnement, du système éducatif? Comment ça marche? Quelles sont les sphères qui s'interpénètrent et qui permettent de faire bouger les choses?
Mais alors, pour faire un rapide schéma du fonctionnement, il faut préciser que, on dépend donc du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est normal. Ceci va se diviser en rectorat, donc le rectorat de Montpellier chapeaute plusieurs départements, et chaque rectorat va quant à lui chapeauter chaque département via les inspections académiques. Et chaque inspection académique est ensuite subdivisée en inspections départementales, ce qu'on appelle les IUN, inspections de circonscription. Alors concernant les budgets, en fait, on dépend d'un organisme qui est la cellule TIS. La cellule TIS qui est le dépendante du rectorat, qui est en fait tributaire des textes qui descendent donc du ministère, à savoir les programmes d'action gouvernementaux de systèmes d'informatisation, ce qu'on appelle le S3IT, le schéma stratégique des systèmes d'information et de télécommunications. Donc ce sont vraiment des plans nationaux. À partir de là, au niveau de chaque rectorat, il y a des budgets qui sont alloués, et en fonction des projets donc de chaque département, les budgets sont dispatchés. Mais actuellement, il est difficile chez nous d'avoir un projet, on va dire, orienté sur le logiciel libre. Donc les budgets, en fait, on les voit se répartir sous forme de dotations académiques qui sont représentées par du matériel qui débarque dans les écoles, un petit peu comme ça, pas inopinément. Mais vous avez aussi bien les écoles maternelles que primaires qui se voient dotées d'exactement les mêmes appareils, mais aussi les mêmes logiciels. C'est un petit peu, on se retrouve un petit peu dans la configuration où on équiperait une école maternelle avec du mobilier d'une classe de CM2. Je veux dire, il n'y a pas vraiment un regard qui est porté sur l'utilité des logiciels qu'on peut trouver et qui serait adéquate à chaque classe. Donc il y a un manque à ce niveau-là, il y a peut-être un manque de réflexion, mais qui peut-être sera modulé dans quelques temps quand on se penchera un petit peu plus sur le logiciel libre.
Alors ça fait un petit peu froid dans le dos parce que ça rappelle des souvenirs où à l'époque où on trouvait déjà des 386 ou des 486, l'éducation nationale investissait massivement dans des TO7. Est-ce qu'on en est encore là dans l'incohérence
Non, on n'en est plus du tout là. C'est une bonne chose, mais on peut quand même regretter qu'on fait un petit peu toujours la course à la puissance. On a l'impression quand même qu'on idolâtre toujours la machine. Il faut toujours une machine dernier cri, une machine puissante. Bon, ça c'est peut-être bien, mais on ne regarde pas ce qu'on met dedans. Alors quand on connaît l'avantage du logiciel libre, on peut se dire que dans ces périodes de restrictions budgétaires dont beaucoup de ministères et beaucoup de collectivités sont touchées, on pourrait effectivement penser qu'un effort serait fait de ce côté-là. C'est un petit peu restrictif de dire que l'avantage du logiciel libre ce n'est que ce côté financier, parce qu'il y a quand même d'autres choses derrière, notamment le partage de la connaissance, enfin un tas de trucs qui va très bien à l'école, et aussi quelque chose qui est relativement important et que je ne comprends quand même pas pourquoi c'est fait, qu'est-ce qui empêcherait donc, par exemple, une inspection départementale de doter en fin de cycle des élèves de terminale d'un pack logiciel libre qui leur permettrait de partir à l'université avec, avec tout ce qu'il leur faut, quoi.
Mm-hmm. Anthony ?
Ouais, moi je voudrais quand même rajouter un point, c'est pas sur les budgets, c'est sur la publicité en fait, parce que quand on allume un ordinateur dans une école, sur l'écran de l'ordinateur qui s'allume, il y a Windows. Alors je pensais que les entreprises devaient pas rentrer dans l'éducation nationale française, et d'un autre côté, on fait une pub monstrueuse sur Windows à chaque fois, sur tous les ordinateurs des écoles françaises.
Mmh. Il y a quand même un point aussi à noter, excusez-moi, c'est que maintenant on trouve de plus en plus dans les facs et celle de Montpellier y compris des systèmes d'exploitation libre. Faut quand même le noter, même si à l'heure actuelle on peut dire, mais ça effectivement c'est les facs, ce sont ceux qui sont le plus réactifs parce qu'ils vont se retrouver dans la vie professionnelle et le logiciel libre est de plus en plus nécessaire dans la vie professionnelle aujourd'hui. Mmh. Donc en fait on trouve à peu près 50% de machines sur GNU Linux ou des BSD et l'autre moitié du parc sous Windows. En général, ceux qui sont sous Windows, ça vient des professeurs qui ne veulent pas apprendre autre chose que ce qu'ils connaissent.
Mm-hmm. Bon, mais là, si je peux donner une petite lueur d'espoir, je peux vous dire qu'officiellement, dans le Gard, on a deux écoles qui sont équipées avec le système Linux. Pour vous dire, c'est la Mandrake 9.1 qui est installée dans deux écoles maternelles. Les gens sont vraiment très contents parce que contrairement aux autres dotations, eh bien, ils sont déjà dotés de logiciels éducatifs qui va vraiment très bien aux enfants de petites, moyennes et grandes sections.
Oui, de toute façon, de l'espoir, il y en a toujours, hein, ça c'est certain. Alors, le CRI 74 est alimenté par le Conseil Général, qui lui fait entièrement confiance depuis 1993. Ça leur a permis de développer une structure capable d'être fournisseur d'accès pour toutes les écoles, les mairies, etc. Cécile parlait aussi de la mise en place d'un cluster. Alors, j'aimerais bien que les érudits que vous êtes éclairent les oreilles des auditeurs sur qu'est-ce que c'est, quel est l'avantage d'avoir un cluster. Et puis Kazako.
Un cluster, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler une multitude de machines qui sont liées entre elles, mm-hmm. en général par des cartes réseau qui peuvent aller à des vitesses assez impressionnantes et qui font des calculs ensemble. C'est-à-dire que de plusieurs machines, en fait, virtuellement, on en a qu'une qui va effectuer des calculs ou d'autres choses de manière très rapide. Un exemple assez amusant sur le sujet, c'est l'Inde. Comme vous le savez, les États-Unis ont pendant de nombreuses années interdit à l'Inde de recevoir des machines supérieures à 486. Et l'Inde voulait créer la bombe atomique. Elle a pris une grappe d'ordinateurs, donc elle a construit un cluster de 486 machines qu'elle avait droit de posséder. Et grâce à ce cluster qui regroupait plus de 200 machines, elle a réussi à calculer la bombe atomique, alors qu'avec un petit 486, il aurait fallu des siècles. Grâce à 486 réunis ensemble et calculés ensemble, ils ont mis un mois. Mm-hmm. Voilà ce que c'est qu'un cluster. C'est une grosse réunion de machines qui peuvent faire des calculs très rapides.
Mm-hmm. Pour
Jean-Claude.
Pour aller un petit peu plus dans le sens du réel pour les utilisateurs qui n'y connaissent rien, le cluster, Albert a déjà dit le mot, c'est une grappe d'ordinateurs, exactement comme une grappe de raisin. C'est-à-dire qu'avec un grain de raisin, vous n'avez pas beaucoup de jus, mais avec 250 grains de raisin, du coup, là, on a un demi-litre de jus de raisin. Mmh. Eh bien, le fait de mettre beaucoup de petits ordinateurs ensemble, ça fait une très grosse machine, voilà, en puissance.
Alors, pour revenir par rapport au CRI 74, il est financé donc par le Conseil Général. Est-ce que dans le Gard ou dans l'Hérault, est-ce que, à votre connaissance, il y a des tractations, il y a des décisions, c'est quand même fantastique. On a l'impression que les conseils généraux communiquent pas forcément entre eux au niveau national pour se dire hey, « nous, on a une super idée, on a rencontré des gens super motivés qui nous ont fait ça ». Manifestement, chez nous, c'est pas le cas encore.
Le problème, c'est que toutes les bonnes idées ne font pas forcément tout un grand chemin.
D'accord.
Il n'y a pas que dans le monde du financement ou de l'informatique. Bon, il faut savoir que actuellement, les communes sont mises à contribution pour le déploiement des TIS. Alors les TIS, je redis ce que c'est, mm-hmm. les technologies d'information et de communication pour l'enseignement, c'est quelque chose dont on entend parler, on va dire, depuis 7-8 ans à peu près. Et on met un grand espoir là-dessus parce que il faut former l'élève en tant que futur citoyen capable de pouvoir communiquer, de pouvoir utiliser cet outil. Alors, on a mis les communes à contribution, donc c'est l'argent du contribuable qui part pour équiper les écoles. Bon, C'est un fait, mais on part aussi dans cet argent part aussi dans la formation. Savoir que dans l'éducation nationale, on a donc des formations et les entrées, les différentes entrées que l'on peut trouver justement pour favoriser le livre, elles sont là. Il y a la formation continue, il y a l'auto-formation, il y a les CDDP, les CRDP, enfin il y a tout ça quoi. Mais concernant donc le financement, ben oui, il y a le conseil général, il y a les communes et effectivement il y aura peut-être une réflexion à mener là-dessus sur ben, comment économiser un petit peu d'argent, voire même beaucoup d'argent et ainsi favoriser donc le livre et surtout donner des outils qu'on peut partager. Ce serait quand même fabuleux pour une école de dire ben voilà en fin de cycle ben nos élèves ben ils ont déjà acquis les bases informatiques parce que maintenant ça devient une obligation par le B2I, le brevet informatique et internet qui doit être pour le niveau 1 validé en cycle, en fin de cycle primaire donc dans le premier degré, pour le niveau 2 au niveau du collège. Et bon, on pourrait éventuellement se pencher sur cette question, qu'est-ce qu'on pourrait donner aux enfants pour que finalement ils puissent aussi avoir des outils chez eux, donc peut-être orienter les décideurs, ceux qui ont ceux qui ont les portefeuilles pour donc orienter différemment les budgets. Mm-hmm. C'est, si je peux me permettre, un petit peu le but de l'association Allège Tisse,
voilà,
qui, si on y vient maintenant, qui a pour but donc la promotion, la diffusion et l'information à propos du logiciel libre auprès des collectivités locales, auprès des enseignements, des établissements scolaires et aussi auprès du particulier. Donc quand l'association sera officiellement déclarée, il y a un petit peu de retard là-dessus, eh bien des courriers seront envoyés au conseil généraux Gard, Hérault, certainement Lozère, enfin tous les départements dépendant de l'académie, et je pense qu'on aura quand même une oreille attentive à ce niveau-là.
Très bien. Alors justement, bon, on va en venir à Allège Tisse. Peut-être on va faire je crois qu'on a Thierry Stoer au téléphone qui est, je crois, prêt à nous faire sa chronique. Alors Thierry Stoer, on peut le représenter puisque il participe régulièrement à cette émission. C'est quelqu'un qui est très actif au niveau du logiciel libre et puis de la passerelle entre le monde de l'éducation et le logiciel libre. Je crois qu'il est avec nous.
Allô, bonsoir.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir à tous et à toutes. Eh ben oui, ici Paris, comme on dit. Hein. Donc je prends l'émission en cours de route, comme on dit aussi. Enfin bon, je me doute de ce dont t'as vu parler Alain, que je salue aussi.
Bonjour Thierry.
Et puis bonjour. Et puis je sais pas, comment est-ce qu'on procède ? Ça c'est vraiment du direct, hein, comme on dit.
Alors là c'est vraiment du direct. Alors je sais pas si vous avez eu le temps d'écrire cette fameuse chronique.
J'ai un petit truc, oui, j'ai quelque chose sous la main, tout à fait, j'avais quand même un peu prévu. Évidemment, ça risque de faire répétition, peut-être par rapport à ce qu'a dit Alain jusqu'à présent et ce qui a été cité, quoi.
La répétition est indispensable à l'art.
Voilà, on dit que la pédagogie c'est l'art de la répétition des fois, c'est ça, donc bon, on va le faire. En fait, c'est pour dire deux choses, moi, sur lesquelles j'insisterai. Il y aurait beaucoup d'autres hein, sur lesquelles on pourrait dire il faudrait ceci ou il faut cela. Moi, il y a deux points qui me semblent importants. C'est le premier, alors j'ai juste entendu la fin de l'intervention à l'instant de Alain, qui disait il y a le B2I, et je crois que c'est capital à avoir à l'esprit, et à savoir ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire que le B2I, comme il l'a dit, c'est le brevet informatique et internet. Ça veut dire une reconnaissance de compétences. L'éducation nationale dit, voilà, les élèves, alors les élèves aussi bien au collège et à l'école primaire, on leur reconnaît des compétences pour savoir faire des choses. Et ce qui est important, à mon avis, à souligner, à dire et à systématiquement reprendre, c'est qu'on ne dit pas qu'il s'agit de savoir faire des choses avec un ou des logiciels particuliers, mais il s'agit d'acquérir des compétences pour certains types de logiciels. Alors, pour être encore plus précis, on dit qu'il s'agit de savoir faire des choses avec le courrier électronique. On ne dit pas avec tel logiciel de courrier électronique ou tel autre. On dit avec le courrier électronique. On dit aussi qu'il s'agit de savoir faire des choses avec le traitement de texte. On ne dit pas autre chose que traitement de texte, qui est la catégorie du logiciel. On dit aussi savoir un petit peu manipuler le tableur. On ne dit pas tel tableur ou tel autre. Et ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que très naturellement, aussi bien dans le monde du logiciel libre que hors du monde du logiciel libre, on a, pour nous, dans le monde du logiciel libre, des tableurs, on n'en a même pas qu'un seul, on a des traitements de texte, on n'en a pas qu'un seul, on a des logiciels de navigation, on a des logiciels de courrier électronique qui existent. Ça veut dire que pour le B2I, il est tout à fait sans aucun problème possible de faire que les élèves acquièrent les compétences avec des logiciels libres, puisque là, il y a l'ensemble des outils qui existent. Et le petit corollaire à ça, c'est que concernant le B2I, il ne s'agit pas du tout de le faire passer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour le B2I d'un examen. Il n'y a nulle part écrit, et là c'est très clair, c'est très officiel, les textes sont en ligne. Si on fait B2I dans n'importe quel moteur de recherche, si on tombe sur education.fr, là on aura des informations sûres à la source. Eh bien, le B2I, donc, c'est non pas un examen, mais c'est une validation des compétences au fur et à mesure. Ça veut dire, pour là aussi être encore plus clair, et puis peut-être pas forcément dire des choses qui vont plaire à certains, que lorsqu'il s'agit, et on le voit des fois malheureusement écrit, de dire « il s'agit de passer l'examen du B2I avec le logiciel Tartampion », c'est faux sur le terme « passer l'examen », et c'est faux sur le logiciel Tartampion ou autre. On dit... Les enseignants voient que les élèves, dans leur utilisation régulière de l'outil informatique, eh bien, quand on se dit ça y est, aujourd'hui, celui-là, il a compris comment utiliser correctement la mise en forme dans le traitement de texte. Et on lui a pas dit, aujourd'hui, tu passes l'examen pour savoir si tu mets correctement en forme le traitement dans le traitement de texte. Donc ça, c'est deux points concernant le B2I qui me semblent vraiment très importants, parce que ça veut dire que pour le logiciel libre, eh bien, c'est tout aussi pertinent, tout aussi judicieux, tout aussi efficace que les autres logiciels. Il n'y en a aucun qui est privilégié, et le libre a autant sa place que les autres, sachant que le libre a de nombreux autres avantages. Je parle pas de la gratuité, je parle pas de l'évolutivité, je parle pas de l'indépendance. Tout ça, ça mériterait d'être encore développé. En tout cas, pour le B2I, c'est ça.
D'accord, merci Thierry.
Et je peux rajouter une dernière petite chose ?
Oui.
Allez, la dernière petite chose que j'avais juste mentionnée la fois dernière, c'est que je crois qu'il faut pas du tout que tous les utilisateurs, toutes les utilisatrices de logiciels libres, notamment lorsque dans le monde de l'enseignement, on produit, dans le monde de l'éducation, on produit des documents. Je pense qu'il faut pas avoir peur et pas avoir honte du tout d'écrire. En espérant que ça puisse passer à la fin de sa page dans laquelle on a essayé de tout faire rentrer, mais d'écrire à la fin, tout en bas, documents réalisés avec openoffice.org ou documents réalisés avec LaTeX, documents réalisés avec le tableur, je sais pas moi, numérique, qui sont là trois exemples de logiciels libres. C'est non pas de la publicité, mais à mon avis de l'information, parce que ce serait de la publicité s'il y avait une activité commerciale dessus. Or là, c'est simplement de l'information, parce qu'on peut, sans aucun problème par rapport au coût et sans aucun problème par rapport à la licence, on peut dire aux élèves, eh ben, si ça vous intéresse, si ce logiciel avec lequel moi, votre enseignant, je travaille, eh ben, ce logiciel, je peux vous le remettre ou vous pouvez le récupérer, et vous aussi, à votre tour, sans enfreindre ni la loi, sans faire du vol et sans avoir à débourser quoi que ce soit, vous pouvez vous aussi utiliser les mêmes outils qui me permettent de faire mes cours et qui sont tout à fait pertinents, tout à fait puissants et tout à fait au point pour que je produise les documents que je vous remette. Et ça, c'est juste une petite ligne en bas qui indique la chose, simplement à titre d'information, et qui forcément, petit à petit, bah, va attirer l'attention, va faire qu'il y aura peut-être des questions, soit des élèves, soit même des collègues au sein de l'établissement, qui vont soit le voir, soit peut-être en parler, parce qu'ils ont entendu que l'enseignant un tel, il disait à ses élèves, bah, si vous voulez le logiciel que j'ai, je peux vous le donner, et c'est pas du vol. Voilà, c'est donc juste de pas avoir honte et de pas avoir peur de le dire, voilà ce que j'ai utilisé, y compris en tout petit, mais là en tout petit au bas de la page, ce sera pas la clause qui dit que finalement tout ce qu'on a écrit avant est plus valable comme dans certains contrats commerciaux.
Merci Thierry, voilà. En tout cas pour cette chronique un peu spéciale ce mois-ci. Je rappelle à nos auditeurs qu'on te retrouvera dans 2 mois, donc comme ça, septembre, ce sera en novembre.
Ok, eh ben, à bientôt, au revoir à toutes et à tous.
Merci, à bientôt. Merci.
Voilà, donc je crois que Alain vouliez apporter de l'eau à ce moulin-là.
Voilà, bon, mais je voudrais un petit peu rajouter les choses. C'est vrai que Thierry a pratiquement bien éclairé l'auditeur sur ce qu'est le B2I. Il faut aussi préciser qu'actuellement se met en place le C2I. Alors C2I, c'est le certificat Internet informatique qui va être, on peut dire, peut-être sanctionné le futur enseignant. Alors ça va être mis en place dans les IUFM. Et on va donc faire passer un certain nombre d'activités informatiques à l'enseignant pour qu'il ait justement une certaine connaissance à sa sortie de formation en disant voilà, vous êtes apte à. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même le B2I, c'est l'enseignant qui va le faire passer, l'enseignant ou l'équipe enseignante. Donc si au départ on a en fait des gens qui ont été formés et qui ont eu le choix dans leur formation et qui ont vu donc utiliser plusieurs types de logiciels, on peut avoir des chances à ce que justement cet enseignant fasse la même démarche auprès de l'élève, à savoir qu'il ne va pas uniquement le former sur un logiciel, mais sur plusieurs types de logiciels. Je ne suis pas non plus pour forcer la main, pour dire il faut absolument ça ou il faut absolument ça, mais il faut donner le choix. Je veux dire, l'éducation, c'est aussi c'est l'ouverture à la liberté. On n'a pas non plus à conditionner les enfants que dans un tel type d'activité ou une autre. Il faut leur donner le choix. Et quand on a le choix, alors on peut faire sa propre orientation. C'est quand même relativement important. Donc, le C2I qui va sanctionner les futurs enseignants, ça se passe donc dans les IUFM, et les IUFM c'est aussi le centre de formation continue des enseignants. Donc bon, les enseignants, on a droit chaque année à un certain nombre de stages, et il faut savoir que, bon, je parlais pour le Gard, il y a énormément de demandes pour la formation continue concernant la mise en place des TIS. Donc les TIS, je rappelle, technologie d'information et communication pour l'enseignement. On est confronté à plusieurs problèmes, notamment le nombre de places, le budget qui est de plus en plus réduit, où on supprime, on voit donc qu'on supprime les stages, mais bon, ça encore, on peut
se former de façon spontanée et volontaire, quoi.
Oui, mais l'auto-formation, c'est peut-être pas quelque chose de bien quand justement on a besoin d'un formateur. Mmh. Bon,
non, je veux dire, pas forcément tout seul, hein, on peut justement aller s'intéresser.
Au CDDP, par exemple. Au CDDP, hein, oui, bon, en espérant aussi qu'il propose plusieurs choix dans sa formation. Pour dire que les entrées de formation justement et d'ouverture et de découverte du logiciel libre pour l'enseignant, elles se font lors de formations continues. Alors je tiens à saluer quelqu'un qui travaille à l'UFM de Nîmes, je pense que il sera peut-être content de l'entendre, c'est monsieur Yves Combes, qui est donc formateur à l'UFM de Nîmes et qui lui fait un travail d'information et de formation de ses étudiants, non pas sur un seul type de logiciel mais plusieurs types de logiciels. Alors c'est quelqu'un qui est très très actif au niveau du logiciel libre, et je sais que son objectif, c'est de former les gens à une ouverture d'esprit, aussi bien sur Linux que le logiciel libre fonctionnant sur Windows. En fait, il a vraiment une ouverture d'esprit qui permettra justement aux enseignants de faire le choix. Bon, je sais qu'il oriente un petit peu le choix, parce que quand les enseignants finissent leur formation, ils partent avec un pack logiciel qui est pas négligeable. Donc c'est quand même relativement bien. Il donne aussi les outils qui permettent à l'enseignant par la suite de transmettre ce savoir, et c'est quand même le but de l'éducation.
Voilà, et puis l'avantage des logiciels libres, c'est que justement ces outils, on peut les inclure dans le contenu qu'on transmet aux élèves, parce que il suffit pas la théorie, enfin les outils, c'est bien de les avoir aussi, surtout quand ils sont quand on peut les avoir pour pas grand chose. Alors on va parler d'Allégétis, bien sûr, l'alternative logiciel libre pour les écoles gardoises évitant toute informatisation coûteuse exagérée. Alors c'est une compilation qui tourne sous GNU Linux, Mac OS X, même s'il y a quelques petite particularité à MacOS X, et puis qui tourne évidemment sous Windows de 98 à XP. Alors c'est une compilation sous forme de CD-ROM avec une interface style site web. Les logiciels diffusés sont libres et en version francisée stable, mis à part justement pour macOS, mais ça on pourrait y revenir. Une rubrique vidéo au format DivX est présente sur le CD-ROM pour aider ceux qui éprouveraient quelques difficultés au paramétrage de certains logiciels libres diffusés sur le CD-ROM. C'est une association qui existe depuis 2002. Alors quelle différence entre une, est-ce que c'est pas vraiment une distribution, c'est une compilation?
Oui, tout à fait. C'est une compilation. Oui, j'admets mes limites. Je ne suis pas assez, je veux dire, féru à l'informatique pour faire mieux. Bon, ça c'était pour la version 1.4. La version 1.2 sera relativement maniée et va porter quelques modifications qui ne seront pas négligeables. Bon, pour en revenir un petit peu à la genèse donc d'Algeti, c'était au départ un projet très local. Le département du Gard est un département rural comportant pas mal de d'écoles à petit budget, notamment des RPI, regroupements pédagogiques. Donc ce sont des regroupements de petites écoles dans des coins un petit peu paumés. Pardon, perdu. C'était quand même une alternative pour dire aux collègues, donc enseignants ou enseignantes, ben voilà, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez avoir des dotations, soit des associations de parents d'élèves, soit de l'administration. Ben, ne mettez pas tout le budget, tout le peu de budget que vous avez dans le reste pour acheter une licence pour un ordinateur. On vous propose, bon, mais ben, moyennant quand même les frais d'envoi par la poste et le coût du CD, ben, d'équiper entièrement votre école, vos ordinateurs, s'ils sont assez puissants, bien sûr, de logiciels que vous pourrez utiliser, que vous pourrez redistribuer et dont vous pourrez faire bénéficier, bien sûr, les parents, l'association de parents d'élèves et vos élèves. Donc au départ c'était un projet qui était relativement local. Bon, ça a légèrement débordé, ça va, j'ai quand même pas été pris de court. Ça a été diffusé, je pense actuellement à plus de, je veux pas trop m'avancer sur les chiffres, mais je crois 1200 ou 1300 CD, parce qu'il y a eu un libre téléchargement sur le site de l'université de Picardie. Il y a eu à peu près 250 envois distribués via la poste, donc par moi-même, et des associations qui ont demandé bien sûr l'autorisation de le dupliquer, le diffuser, ce qui s'est fait donc bien sûr sans problème, parce que le but du jeu, si on peut parler de jeu, c'est quand même ça, c'est diffuser le maximum possible de logiciels.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Algeti, ce n'est pas seulement distribué en France, mais est aussi distribué à l'étranger, et ça, Alain...
Dans les pays francophones ou...
Dans les pays francophones, oui.
Pays francophones, et depuis cet été en Asie, notamment à Bali, et ça va équiper certainement quelques écoles françaises en Indonésie.
Donc c'est une solution qui a rencontré des enthousiastes, on va dire, des gens qui s'en servent, qui l'ont pris et qui s'en servent. Est-ce que, justement, les institutions ici ont la même réaction, ou est-ce qu'on vous regarde arriver un petit peu comme...
Bon, dans un premier temps, on m'a regardé un petit peu avec des gros yeux en disant, bah, écoutez, on voit pas trop ce que vous faites avec ça, c'est un projet peut-être sympa, mais bon, ça n'ira pas très loin. Alors bon, mais j'ai le regret de dire un petit peu à toutes ces personnes qui peut-être ont pris un petit peu de recul avec tout ça, que le CRN-CNDP, donc c'est la partie éditrice du CNDP, c'est le Centre National Documentation Pédagogique, a repris l'idée. Donc je travaille avec eux sur une version qui va être officiellement, et ça c'était un petit peu le manque de la justice, officiellement reconnue, qui va être donc aboutie en 2004, je pense, et donc qui va débouler dans tous les CRDP, CDDP de France et de Navarre, et donc les écoles vont pouvoir s'équiper de logiciels libres, pédagogiques. En plus, la version va comporter des fiches pédagogiques d'aide et d'accompagnement de l'enseignant. Et donc, ça va certainement être une très très bonne entrée pour le logiciel libre. À savoir que récemment, lors de il y a une dizaine de jours, lors de l'Apple Expo, on a eu la surprise de voir que Apple France sera liée au projet Algetis. Bon, ça sera plus le Algetis tout seul, mais bon, la version macOS 6 d'Algetis va être reprise par Apple France, qui va s'occuper donc de l'intégrer dans une distribution orientée école. Donc depuis quelques temps, je travaille aussi avec le CNDP et Apple France pour concrétiser cette version qui devra donc arriver bientôt, quand on connaît la puissance de travail d'Apple qui
pour, des machines Macintosh,
voilà, des Mac. Donc c'est une très très bonne chose pour le logiciel libre dans l'éducation. J'espère que ça va faire suffisamment de bruit et qu'on va enfin se pencher sur l'avenir du logiciel libre dans l'éducation.
On le souhaite. Jean-Claude.
Oui, je voudrais faire une remarque complémentaire à ce que vient de dire Alain, et que peut-être Alain aurait du mal à dire lui-même, c'est que ce qui fait le grand succès de Algeti, c'est la qualité de l'interface qu'il a réalisée. Un gros problème de diffusion des logiciels, d'une façon générale, qu'ils soient libres ou pas, c'est de les rendre accessibles aux utilisateurs. C'est-à-dire que c'est pas le tout de faire une compilation de logiciels sur un CD-ROM et en disant, là, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler.
Il en existe d'autres, d'ailleurs.
Il en existe d'autres. Encore faut-il que cette compilation soit présentée de telle sorte que n'importe qui, n'importe quel enseignant en l'occurrence, ou parents d'élèves, puissent se dire, mais effectivement, si je veux faire ça, je peux utiliser ça, et en plus j'ai un tutoriel qui va m'expliquer comment il faut faire pour l'utiliser. C'est ça le côté magique d'Algetis. Et je crois que ce qu'a fait Alain, c'est vraiment un énorme travail.
C'est un travail de professeur vers ses élèves.
D'instituteur.
L'institution. Ah, c'est encore mieux. Bon, ben, je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes d'émission. Un dernier mot.
Ben oui, ben écoutez, je suis pas venu les mains dans les poches. Ben voilà, j'espère que l'équipe donc
de Divergence,
de Divergence, ben, acceptera volontiers cette modique contribution. Donc voilà, ben je vous amène une version d'Alliage de Tis. C'est pas la dernière version. J'espère que vous en ferez profiter vos collègues, vous-même.
Tout à fait.
Je sais pas si vous avez des ordinateurs dans le coin, mais peut-être que vous pourrez essayer voilà les logiciels qui sont là-dessus.
Ça, c'est du prosélytisme.
Absolument. Je crois que pour le libre, on peut faire du prosélytisme puisqu'il n'y a rien à gagner pour celui qui le fait.
Tout à fait.
Contrairement à... Bon, on va pas parler de religion ou de politique. Peut-être avant de refermer cette émission, puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, un petit tour du côté des nouvelles du monde du libre, un petit tour aussi côté agenda. Peut-être dire deux mots de la Léa Party ou de la Léa Knight ou de.
Alors, elle s'appelle Librement Votre, en fait.
Librement Votre, oui.
Elle devait avoir lieu au départ le 4 octobre, mais en fait, elle a été reportée pour diverses raisons au 25 octobre. Elle commencera à partir de 14h. Vous pourrez y retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Denis Baudor, qui est le rédacteur en chef de Linux Magazine France, qui viendra nous parler un peu du livre et de la publication en France. Il y aura aussi Pierre Jarillon, l'organisateur des RMML que vous avez pu écouter sur la mission du mois de juillet. Il y aura Thierry Stouwer, que vous venez d'entendre dans sa chronique, qui sera là le 25 octobre. Qui viendra parler des formats de fichiers et de LaTeX, qui permet en fait à LaTeX de créer des documents à très haut niveau. Il y aura Christopher Espern, cofondateur de UCD. Vous vous rappelez, UCD, c'est le droit d'auteur, du moins sa nouvelle forme. Et Christophe Espern, lui n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Il viendra nous expliquer pourquoi. Dans la définition des enjeux du point de vue de la loi relative donc à la copie privée, et Benjamin Gigon, membre de l'association Léa, ainsi que Anne et Fred, ainsi que aussi bon nombre de personnes de l'équipe de PLF. Alors PLF, c'est le Front de Libération du Pingouin, qui est en fait un front qui fait des paquetages. Alors des paquetages sont des applicatifs pour Mandrake, mais qui ne rentrent pas dans la Mandrake, parce que la Mandrake est totalement GPL, et PLF ne fait pas que des paquetages GPL. Et bien d'autres personnes qui voudront nous parler du libre, de sécurité, et tout ça. Voilà.
Voilà, j'espère que vous n'êtes pas perdus dans les G, les P et les L, parce qu'il y en avait dans tous les sens. En tout cas, bah, peut-être avant
et,
de...
Si, j'oublie oui. Quelque chose, de dire que cette journée est en collaboration avec Léa Linux, que c'est elle qui est l'organisatrice, et Linux French qui vient y apporter son soutien, avec le CM Kawenga, qui nous apporte le lieu, l'infrastructure, et voilà.
Ce qui n'est pas rien, parce que c'est pas facile aussi d'organiser comme ça un petit peu sur le vif des réunions pareilles. Que dire d'autre sinon que de rappeler que l'histoire de la brevetabilité des logiciels semble prendre un tournant plutôt favorable, même si la lutte n'est pas finie. Je pense que d'ici quelques jours, le temps de s'organiser un petit peu, on en parlera plus abondamment dans une oreille hardie du mercredi, sans aucun doute. Et puis je crois que c'est tout.
Merci.
Merci.
Merci. Merci à Albert, à Anthony, à Jean-Claude et puis à Alain, notre invité. Prochaine émission Divergence numérique, le dernier jeudi du mois prochain. C'est simple. On remercie Cyril Hugo pour la réalisation technique de cette émission. Merci. Bonsoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Sans vous offenser, vous êtes un robot, n'est-ce pas ?
C'est exact, monsieur.
Divergence FM.